Campus Bordeaux.
88,1.
Campus Bordeaux.
88,1.
Il est 13h10 et on est en direct. Vous écoutez toujours Café Campus. À présent, c'est l'instant débat du jour. On reçoit sur notre antenne 5 étudiants de l'université Bordeaux-Montaigne. On accueille Laborie Rémy, Pierre Anio Marco, Papi Adèle Ferré-Jules, Furfari Marlène Nathael. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ?
Coucou.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui,
ça va très bien.
Alors aujourd'hui, c'est un débat que vous nous avez proposé aujourd'hui sur nos ondes, un débat centré autour du blocage. Donc on rappelle un peu le contexte. L'université Bordeaux-Montaigne est bloquée à présent depuis plusieurs semaines. Maintenant, ça fait un peu plus de 3 semaines. On ne sait pas si le blocage sera reconduit une nouvelle fois donc pour la semaine prochaine, sachant que maintenant, il y a un vote par semaine qui reconduit le blocage la semaine suivante ou pas. Et déjà, dans un premier temps, je vais vous inviter à vous présenter chacun votre tour.
Tour de table.
D'accord. Bah, je vais commencer. Moi, c'est Ferré-Jules. Je suis étudiant donc à Bordeaux-Montaigne en culture humaniste et scientifique.
Alors, bonjour, moi, c'est Nathael Furfari. Alors, comme mon camarade à gauche, je suis aussi étudiant à Montaigne, enfin, de ce qu'on sait, on l'est tous, en culture humaniste et scientifique en première année. Voilà, on partage la même promo.
Eh ben, moi, c'est Laborie Rémy, et pour un grand changement, je suis en première année de culture humaniste et scientifique, avec les deux copains d'à côté.
Bonjour, moi, c'est Adèle, je suis étudiante en philosophie, à Montaigne, du coup.
Et moi, c'est Marco, je suis aussi étudiant à Montaigne, en première année d'histoire, et je suis aussi militant à Le Pourlevé et à Révolution Permanente.
Alors, pour continuer à parler du blocage, c'est un blocage qui est un peu survenu du jour au lendemain, qui a surpris pas mal de personnes. Dans un premier temps, déjà, pourquoi vous vouliez faire un débat autour de ce fameux blocage ? Quelles sont vos motivations ?
Je vais prendre la parole là-dessus. Pour moi, c'était important en fait, de communiquer et de partager l'information, parce que pour moi, il y a un grand problème de transmission de l'information à l'université, notamment par rapport aux mails. Bon, là, exceptionnellement, j'ai envie de dire, à cause de la période qu'on est en train de traverser, les gens s'informent plus, ils ont plus tendance à lire leur boîte mail, à regarder les mails de la présidence. Mais pour moi, remettre cette idée de dire, bah voilà, il se passe quelque chose en ce moment sur le devant de la table et le partager, bah Radio Campus, je pense que c'était la bonne occasion. Bah voilà pourquoi je me suis dit que ça devait être une bonne idée de proposer ce débat entre autres titres, on va dire.
Un problème de communication interne à l'université. D'ailleurs, comment vous avez pris connaissance de ce blocage ? Est-ce que c'était par hasard ? Est-ce que c'était par un mail, effectivement, ou par le bouche à oreille ?
Pour le coup, c'était vraiment le bouche à oreille. C'est une autre fille de culture humaniste et scientifique qui m'en a parlé personnellement, la veille du blocage. Et après, ça a été la surprise générale pour tout le monde, pour ceux qui ne s'étaient pas informés de l'événement le jour. Mais sinon, ouais, personnellement, c'était le bouche à oreille d'étudiants.
Nous, on l'a voté en AG l'avant-veille aux Beaux-Arts. On avait fait une réunion et du coup, c'est là que je l'ai su. Enfin, qu'on l'a voté.
Et même pour ajouter, juste, on avait du coup voté, donc c'était une AG interfac aux Beaux-Arts et qui, du coup, toutes les facs s'apprêtaient à soutenir le blocage de Montaigne. Et du coup, la veille, à une AG à Montaigne, a été voté que Montaigne allait être bloqué dans la nuit et tout ça. Et du coup, c'est ce qui a été fait. J'y ai participé notamment. Donc.
Et alors, que pensez-vous de ce blocage ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie d'étudiant depuis quelques semaines ?
Ouais, je vais prendre la parole. Du coup, j'en ai beaucoup plus de temps pour se mobiliser, aller en manif, faire des réunions. Et je pense qu'on est beaucoup à considérer que même si les cours reprennent, bah, on n'aura plus le temps en fait. Et c'est ça qui est super avec le blocage, c'est que du coup, bah, on s'investit à fond et on a le temps quoi.
Ouais, et puis c'est une réelle chance pour les étudiants de se mobiliser. Le rôle principal de la fac, pour moi, c'est quand même plus d'enseigner des choses que de délivrer des diplômes. Et là, c'est un super moment de mobilisation. On apprend à tout le monde à être dans la démocratie, à être des républicains, pas le parti politique, attention, surtout pas, plutôt soutenir la République, et à être des citoyens, à être des gens actifs et à pas se laisser faire. Et donc, c'est un choix possible que de pas se mobiliser. Mais c'est laisser la possibilité aux étudiants de le faire, et ça, c'est génial.
Et c'est sûr que c'est, en fait, ça redéfinit complètement le temps de comment on investit l'université. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bon, bah, voilà, l'étudiant, entre guillemets, modèle, c'est tu vas en cours et tu t'assures d'avoir les notes suffisantes pour gagner ton année et puis passer à l'année suivante. Et comme a dit Rémy, finalement, bon, bah, l'université est plus pensée aujourd'hui pour délivrer des diplômes que de la connaissance, qui pour moi est un peu une aberration en soi, mais...
le temps du blocage, en fait, même plus que le blocage, parce que là on est sur un temps d'occupation, ce qui n'est pas exactement la même chose, permet vraiment aux gens de redéfinir leur rapport à l'université, comment ils pratiquent leur temps ici. On voit qu'il y a des nouvelles conférences qui ont été, enfin des activités qui sont proposées en fait. C'est-à-dire que l'université n'est pas morte, la vie de l'université n'est pas morte, il se passe des choses. Il y a des enseignants-chercheurs qui viennent amener des sujets sur la table, viennent en discuter avec les élèves. Il y a de l'échange qui se fait, en fait, qui s'est maximisé entre les étudiants. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme, pour prendre un exemple, pas du tout choisi au hasard pendant les années Covid, où chacun restait chez soi et, pareil, entre guillemets, la fac était fermée. Mais là, l'échange est vraiment favorisé. C'est-à-dire que venez et communiquez ensemble. C'est le message qui, pour moi, est adressé ici. Et je suis très touché par cela, on va dire.
D'autres opinions ?
Peut-être pour ajouter quelques éléments à ce qui est dit. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit par mes camarades là. Et même, je pense que c'est vraiment un facteur massificateur, le blocage, parce que quand on voit les AG qu'il y a eu avant le blocage et qu'il y a eu après, il y a vraiment un grand bond au niveau des personnes mobilisées. Et aussi, quand je discutais beaucoup avec les gens qui étaient là, avec qui on essayait de motiver avant le blocage, la plupart, ils avaient une certaine pression des notes, des cours... De la fac en général, même juste pression universitaire qui est intrinsèquement liée aussi à l'individualisme de la société, tout qui nous pousse à toujours être, à avoir des bons diplômes, à avoir de bonnes études et tout machin. Et voilà, je pense que oui, l'université n'est pas morte et je pense qu'il faut même encore plus l'investir qu'elle est déjà, parce que je trouve déjà que c'est très très bien le fait qu'il y ait eu, que préciser que les profs aussi sont investis dans ce blocage, ou avec notamment les cours alternatifs qui sont organisés par plusieurs profs. Et tout ça, c'est très bien. Voilà, il y a même une journée festive qui avait été organisée par des étudiants en cinéma et tout ça. Je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'on est en train de faire à Montaigne.
Et Jules ?
Ah. Non, mais alors, je vais pas mentir, je ne me suis pas énormément investi durant ce blocage. J'ai surtout été là pendant les manifestations. Et voilà. Mais du coup, de ce que j'en ai vu, simplement, je sais que j'ai pas été hyper intéressé forcément par ce qui avait pu être proposé, simplement parce que je pense pas être le public, mais je soutiens totalement l'idée derrière. Après, simplement, je me dis, et alors certes, je suis d'accord, la faculté n'est pas faite pour délivrer des diplômes. Après, elle est faite pour délivrer des enseignements, et je pense que chacun a choisi un enseignement en allant dans certaines licences. Du coup, est-ce qu'on ne passe pas à côté du fait de ne pas avoir ces enseignements ? Voilà, c'est la seule chose que je dirais, mais après, sinon... Bon,
Moi, j'ajouterais que je comprends très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent contre le blocage, du coup, et qui en ont marre. Parce que, mais moi, la première, j'adore mes cours, et du coup, ça me fait du mal un peu de ne plus avoir cours, et ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu cours. Mais juste, je trouve que c'est le seul moyen de montrer que les jeunes, on est là, on est contre la réforme des retraites, et pas que la réforme des retraites aussi. Et que même si la culture, c'est l'émancipation et c'est très important d'aller à l'école, là, on apprend au Comob un vivre ensemble qu'on n'aurait appris jamais nulle part. Et ça, je pense que ça vaut aussi quand même beaucoup de cours.
Si je peux rebondir sur ce que tu as dit, Jules, alors vu que toi, tu ne participes pas activement comparé aux autres personnes qui sont présentes ici à l'occupation, au blocage, aux activités, mais plus de ce qui se passe à l'extérieur, comment toi, tu le vis personnellement, là, ces 2 semaines de blocage ? Comment tu te sens par rapport à ça, le fait de ne pas venir en cours, le fait de voir un peu loin de ce qui se passe et voir des gens qui participent ? Est-ce que tu te sens intégré ? Est-ce que tu penses que tu as ta place ou pas ? Comment tu le ressens, toi ?
Alors, simplement, oui, je me sens intégré dans le sens où il n'y a rien qui est bloqué. Hein. Franchement, j'ai totalement accès, comme tout le monde, à ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de souci. Personnellement, je continue de travailler sur les supports de cours qu'on nous donne, pour pouvoir pas perdre le rythme, parce que je sais que si je m'arrête, comme beaucoup d'élèves, on connaît les grandes vacances par exemple, où si on s'arrête, après on s'égare de reprendre en septembre. Du coup voilà, il y a cette espèce d'aspect de faut pas lâcher, mais en même temps on a toujours un peu le truc du est-ce que ça va être bloqué, est-ce que la semaine prochaine je dois rendre ce devoir ou pas, est-ce que voilà. Du coup il y a toujours un peu le stress du truc, mais non, je dirais que je le vis plutôt bien dans le sens où... Enfin, pour moi, la période Covid a été ma meilleure période. je pense qu'après, je fais suffisamment de choses à côté de la fac pour que ce soit pas une période qui me dérange particulièrement. Quoi.
Marco, tu souhaitais réagir ?
Oui, peut-être. C'était pour réagir sur toi, ce que disait Adèle sur le fait que, évidemment, là où point où on en est, enfin au point où on est la mobilisation, je pense que vous l'avez remarqué, elle va bien au-delà que du retrait de la réforme des retraites. Mmh. Et je pense que ça me permet aussi de rebondir sur ce que tu disais sur la République et tout ça. Je pense que justement la mobilisation, elle remet en cause même les institutions de la République en soi, de la 5e République. Mmh. Et oui, peut-être, je suis étudiant en histoire, j'en profite pour faire un petit point histoire. On est sous le régime de la 5e République depuis 1958, qui a été, mis en place dans un contexte de quasi-guerre civile en France, et surtout dans, par un coup d'État, en fait, du général de Gaulle.
C'est le gouvernement qui impose une constitution, c'est pas une assemblée constituante.
C'est pas une assemblée constituante, et elle n'a pas été soumise au vote, et surtout qui a donné beaucoup de pouvoir au président, ce qui, à l'époque, pour une certaine partie de la population, était, dans ce contexte de d'après-guerre et tout, était pas forcément un problème pour les gens de l'époque. Mais qui aujourd'hui est totalement en contradiction avec l'évolution de la société. Et même, aujourd'hui, on ne peut plus être gouverné par une seule personne qui peut décider des réformes qui peuvent passer, qui sont antisociales et tout, comme la réforme des retraites. Et là, bien sûr, qu'elle a un caractère beaucoup plus politique et beaucoup plus contre la 5e République, et voire même, peut-être même contre la société en général. Je voulais juste rajouter là-dessus.
Ouais, alors du coup, si je peux rebondir là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est que pour moi, en fait, c'est. Ce que tu dis ici est très juste dans le sens où les questions qui sont posées, que ça soit dans le cadre de l'université, aux assemblées générales, mais aussi à l'extérieur dans les manifestations, ça dépasse pour moi très largement le cadre de la réforme des retraites. Ça prend un cadre très politique et ça remet, comme tu l'as dit, exactement en cause la question des institutions. Le fait que pour moi il y ait une crise parlementaire du parlementarisme aujourd'hui en France, qu'on est soit dans un régime hyper présidentiel et malgré en fait une espèce de verticalité des médias dans ce qui est transmis, on voit qu'en fait au niveau populaire, dans ce qui est échangé, un peu comme ce qui s'est passé aux Gilets jaunes finalement, où très vite on a dépassé les revendications premières pour aller vers quelque chose de plus politique, de plus parlementaire, je trouve qu'on assiste exactement à la même chose ici. Et pour rebondir là-dessus, pour un peu préparer la prochaine question j'imagine, dans le cas des assemblées générales, je pense que c'est justement ce genre de débat en fait, qui politise forcément, de plus en plus, mais aussi polarise. Et ça, éventuellement, ça peut faire peur à certains. Et j'encourage beaucoup, s'il y en a qui écoutent aujourd'hui, à venir justement aux assemblées générales, quelles que soient vos opinions, parce que c'est à ce moment-là que ça se discute. Et il faut faire acte de votre voix, parce que personne ne le fera à votre place.
Rémi.
Je voudrais juste corroborer un truc sur la présidence. La tension qu'on a actuellement entre le Parlement, Matignon, l'Élysée, tout ça, ça vient justement de cette espèce de figure d'autorité absolue que représente le président dans la 5e République. Et on voit bien qu'on arrive dans une impasse un petit peu. C'est pour ça qu'on a une mobilisation qui se généralise. Il n'y a jamais eu autant d'alliances entre les syndicats sur une revendication. Les étudiants, on a des blocages qui commencent à pousser un peu partout. Ça montre bien qu'il y a un système à défaire. Et qu'il y a en tout cas une progression à avoir. Et ça revient d'ailleurs à nos revendications, exactement. Au départ, ce qui a mis le feu aux poudres, c'était la réforme des retraites. Mais nous, on se plaint aussi des nombreux 49-3, de la précarité étudiante, de l'activité hyper solitaire que les étudiants ont au sein de l'université, qui est censée être un lieu de sociabilité. Enfin, c'est tout ça qu'on remet en cause. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'espaces d'échange et de rencontres au sein du blocage, parce que ça fait partie aussi de nos revendications. Et je voulais revenir tout à l'heure sur les enseignements qu'on choisit et tout ça. Le blocage est une période de transition. L'occupation est une période de transition. Un jour, il va falloir qu'on arrête ce blocage, cette occupation. Je pense pas que ce soit aujourd'hui, parce que pour l'instant, le mouvement est en train de grandir et qu'il faut qu'on accompagne ce mouvement. Mais le but, c'est de revendiquer pour arriver vers un progrès. C'est pas d'avoir une idée absolue. Donc en fait, cet arrêt de l'enseignement scolaire et des évaluations, il s'accompagne d'un enseignement différent pendant l'occupation. Mais c'est une période de transition, c'est pour qu'on revendique des choses. C'est pas une finalité en soi.
Marco, et après j'ai une question.
Rebondir pour plusieurs choses, notamment ce que tu disais, je crois qu'il peut-être que je me suis trompé, peut-être que tu disais, que tu comparais par rapport à ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes dans ton intervention. Peut-être une petite subtilité, en effet, je pense que là, la mobilisation est toujours aussi massive qu'au début, avec notamment plusieurs millions de personnes dans la rue. Mais s'il y a bien un facteur que le 49-3 a joué, c'est que ça a aussi radicalisé beaucoup le mouvement avec la multiplication des manifs sauvages et tout. Et peut-être un truc que je devrais rajouter par rapport aux Gilets jaunes.
Ça a incorporé la jeunesse ici, contrairement aux Gilets jaunes.
Voilà. Exactement. Et que les Gilets jaunes, c'était un mouvement très, citoyen, dans le sens où tout le monde venait avec des gilets jaunes, de n'importe quelle classe sociale pouvait être un gilet jaune et se mobiliser et tout ça, alors qu'aujourd'hui je vois plutôt plus un truc en mode La mobilisation, elle vient des lieux de travail et même des lieux d'études où les gens, ils manifestent plus avec leur gilet jaune, mais avec leur chasuble de syndicat. En fait, on voit plus les gilets, enfin même, on voit même, on passe de gilet jaune à gilet rouge, par exemple, par exemple, de la CGT. Y a des grèves reconductibles et des choses qu'il n'y avait pas pendant les gilets jaunes. Et bon, notamment, ça peut être un problème, notamment le fait que il y a beaucoup de secteurs en reconductible et qui sont eux-mêmes isolés, parce que tous les secteurs ne sont pas reconductibles, d'où le fait que la seule manière, c'est mon avis, hein, de réussir le mouvement, c'est d'avoir une grève généralisée de tous les secteurs. Et ça, c'est aussi, je pense, un petit problème qu'on peut reprocher à l'intersyndicale, malgré le fait que je ne suis pas contre l'intersyndicale, sur le fait que c'est très bien que ça fait des années, des décennies, même qu'on n'a pas vu tous les syndicats unis pour une même cause et tout ça, qui est très bien. Mais en même temps, il y a certaines contradictions sur le fait que bah, ils appellent juste au retrait de la réforme. Enfin, ils ne s'adaptent pas à l'évolution de la mobilisation et notamment isolent, sans forcément le faire exprès, plusieurs secteurs qui, eux, sont reconductibles et eux, sont plus radicaux. Et on voit certaines fractions qui se développent plus radicales dans le mouvement et tout ça. Et voilà, je voulais juste...
Adèle.
J'ajouterais juste que la différence avec les gilets jaunes, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a de plus en plus de jeunes. Et les jeunes, on n'a plus grand-chose à perdre. Et je pense que pourquoi on se fait aussi réprimer, je pense que c'est parce que le gouvernement a très peur de la jeunesse, parce qu'on a quand même beaucoup de pouvoir, on est l'avenir et on a un pouvoir de ouf. Et je pense que c'est ça qui nous différencie aussi beaucoup des gilets jaunes. Et qui fait que peut-être que ça peut marcher parce que justement on est quand même énormément de jeunes. Au début on n'était pas très beaucoup, on était même très peu de jeunes en fait dans les manifestations. Et maintenant à la fin des manifs ou les manifs sauvages, il n'y a presque que des jeunes.
Le combat écolo est aussi très présent dans la mobilisation actuelle, hein, avec Sainte-Soline notamment.
Donc on constate une convergence des luttes dans ce mouvement, dans ces manifestations. Mais pour le dire de manière concrète, est-ce que vous pensez que le blocage est un moyen de pression efficace? Qu'est-ce qui a changé depuis que l'université est bloquée et d'autres universités en France? Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça peut véritablement porter ses fruits?
Je pense que le blocage est un excellent moyen de communication, premièrement. Que symboliquement, l'université est cette espèce de lieu de savoir hyper fantasmé en France et que de mettre un coup de pied là-dedans, ça a de la résonance. L'université est le symbole de l'étude, est le symbole justement de l'enseignement, de la spécialisation, du passage entre la scolarité et le monde du travail, et de bloquer ce pont-là. Ça permet d'avoir un écho énorme, je pense. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement en a peur des mouvements étudiants et que ça crée autant de tensions. C'est parce que lorsqu'un mouvement se propage jusque dans les universités et qu'il provoque des solutions aussi importantes que les blocages, que les occupations, que les manifestations étudiantes, que les syndicats étudiants, etc., ça veut dire que ce mouvement a une importance et ça veut dire que le peuple se proteste vraiment pour quelque chose et que ça a du sens. Et c'est ça qui fait peur aussi, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements chez les députés et que ça résonne beaucoup dans l'Assemblée nationale. C'est parce que je pense que le blocage est un excellent moyen de communication, mais qu'il doit s'accompagner de mobilisation étudiante dans les manifestations et qu'il faut bouger par-dessus. Le blocage, c'est une étape pour qu'on puisse avoir le temps, les espaces et les personnes.
Marco.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et même justement, le blocage n'est pas une fin en soi. Ça veut dire qu'on a bloqué l'université, que ça y est... on a gagné et tout ça. Au contraire, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen de permettre aux étudiants de plus se mobiliser et justement plus d'investir l'université et surtout même de politiser en fait l'université. Et beaucoup d'étudiants qui peut-être n'étaient même pas politisés, enfin je connais beaucoup d'amis qui n'étaient pas forcément politisés avant la mobilisation, qui avec le blocage, avec les AG et tout ça, commencent à avoir un avis politique et commencent à vraiment se politiser. Et je pense que c'est vraiment un facteur politisant dans le milieu étudiant. Et surtout, pour encore avoir un exemple historique, c'est en mai 68, c'est différent parce qu'aujourd'hui c'est plus les ouvriers qui sont à l'avant-garde du mouvement et tout ça, mais en mai 68 c'était les étudiants qui étaient à l'avant-garde, et là c'était un autre délire, toutes les facs étaient bloquées, il y avait des AG avec plusieurs milliers de personnes, et ça avait un facteur vraiment très politisant et très massificateur, quoi.
Nathaël.
Alors oui, alors du coup moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il n'y a pas beaucoup de débat pour le coup, mais alors, pour revenir, ouais, comme ce qui avait été dit tout à l'heure, effectivement en fait le fait d'avoir un blocage
permet, au-delà d'un moyen de pression qui pour moi reste à débattre, parce qu'il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ça, j'y reviendrai un peu après, c'est que ça permet en fait de solidariser les gens. Bon, mutuellement ça va en exclure, mais justement comme tu as dit Marco, ça permet de repolitiser, ça permet de créer du lien. Pour moi ça remet l'humain en fait au devant de la scène, ça on réinvestit le lieu différemment et il y a un échange qui se forme. Alors bon, forcément voilà, le problème des débats politiques et surtout des débats politiques à l'heure actuelle, c'est que on est face à une France qui est fracturée, du coup forcément ça polarise extrêmement et ça aiguille des gens qui sont pas très politisés, ça va les amener d'un bord ou l'autre, ce qui pour moi je vais pas dire est une erreur, mais il faut voilà favoriser l'intégration et le débat, la pluralité des voix, pour moi c'est un combat qui est personnel. Par rapport aux moyens de pression en tant que tel, qu'est le blocage, le problème est que au-delà de l'action que ça amène d'un point de vue citoyen, d'un point de vue étudiant, qu'est-ce que ça envoie comme message à l'université et au gouvernement? Enfin, si on regarde en fait la réponse qui se passe dans les médias, c'est on a tant de flaques qui sont bloquées d'une semaine à l'autre. On va dire que le mouvement s'intensifie ou le mouvement s'essouffle. Est-ce qu'il y a des journalistes qui viennent ici voir comment ça se passe en Assemblée Générale? Non. Est-ce qu'ils viennent filmer? Non. Est-ce qu'ils vont demander aux étudiants pour voir un peu comment ça évolue? Pas du tout.
C'est arrivé une fois ou deux quand même.
C'est arrivé une fois ou deux, mais si tu veux circuler dans les grands articles du Figaro ou du Monde ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que la ligne médiatique, elle est assez claire. Et en fait, on va présenter souvent les mauvais aspects au profit des meilleurs, et ça, c'est regrettable. Et pour moi, justement, l'opportunité de passer ici à la radio, c'est de montrer, bah voyez, on peut avoir un débat, même bon, si on est plus ou moins d'accord, qui se passe très bien, on a des arguments qui se tiennent, ça se passe de manière simple et en toute bonne conscience, quoi. Et très souvent, en Assemblée Générale, même des fois si c'est un peu houleux, ça se passe aussi comme ça.
Marco et ensuite Rémi.
Justement, par rapport au sujet des médias, je pense qu'on peut donner un exemple très flagrant, c'est l'occupation de Victoire qui a été délogée la semaine dernière et qui justement, dès que ça a été délogé, la fac de Victoire, enfin les dégradations qu'il y a eu dans la fac de Victoire, donc il y a un problème, on pourrait peut-être revenir là-dessus aussi, mais tous les médias se sont jetés dessus, que ce soit BFM TV, CNews, Le Figaro, enfin tout, ça a été la porte ouverte pour tous les médias, tous les gros médias de venir cracher sur la mobilisation et tout ça, même carrément nous comparant à l'État islamique, hein, dont je vous laisse voir l'extrait de CNews, mais
on les aime bien,
mais vraiment je pense que si on peut, ça a été très bien l'occupation de Victoire pour y avoir été très très souvent sur place. Je pense que la seule défaite qu'on peut avoir, c'est la défaite médiatique, on va dire, au niveau de l'opinion médiatique, même si évidemment que CNews sera jamais de notre côté, mais disons que ces dégradations qui est dommage a favorisé à tous ces médias de droite et d'extrême droite de se jeter dessus et de nous critiquer. Et justement sur l'Assemblée Générale, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui soient pas forcément tous d'accord et que parfois ça peut être houleux et tout ça, et je pense que justement ça c'est très bien, et je pense que même c'est le caractère, ça devrait être tout le temps comme ça en fait, une Assemblée Générale qui est toujours des gens qui soient pas d'accord,
c'est le cœur du débat comme quotidien,
qui soient d'accord, pas d'accord. Je peux même faire une comparaison un peu bizarre, mais l'Assemblée Nationale, ils sont jamais d'accord, mais l'Assemblée Générale dans les facultés, dans les milieux de travail aussi, il faut préciser que les travailleurs aussi s'organisent à l'Assemblée Générale. Personne ne sera toujours d'accord, quoi, mais voilà.
Rémi, ensuite Jules, ensuite Adèle, on terminera par Nathalie et puis on changera de thématique.
Pour revenir sur les médias, on est quand même beaucoup sur des médias très politisés. Je compare quand même la situation, ça va peut-être être maladroit, vous aurez le droit quand même de me contredire, mais les radios pirates dans les années 80, qui ont été légalisées par Mitterrand, c'était la même chose. Ils passaient pour des espèces d'escrocs qui balançaient des informations houleuses et tout. Et puis du jour au lendemain, c'était juste des radios étudiantes, ouvrières, sympas, où il y avait du débat, de la discussion, où c'était un lieu de liberté. Aujourd'hui, on présente les blocus comme un espace acharné, alors qu'il suffit de venir 3 jours pour voir qu'on fait des ateliers de littérature, du cinéma, qu'en Assemblée Générale, tout le monde a son temps de parole. Et que plus ça va, plus les assemblées générales quand même s'organisent sur des choses beaucoup plus démocratiques, notamment les tribunes neutres, etc. L'information qu'on va recevoir à la télé, c'est pas la même que celle qui est représentée. Il y a qu'à voir aux Bassines, il y a eu des violences, mais c'est-à-dire que s'ils étaient venus avec des tracteurs, on aurait dit qu'ils étaient venus avec des tanks, quoi. Donc tout est transformé, tout est orienté. Forcément, les mobilisations étudiantes s'accompagnent de violence parce que dans tous les mouvements, il y a toujours des extrêmes. Et personnellement, je ne serai jamais sur ces extrêmes-là. Enfin, je soutiendrai jamais ces extrêmes-là. Mais pour prendre l'exemple de Victoire, on n'a jamais parlé du blocage de Victoire, sauf quand il a fallu parler de la casse, des statues, des machins, des trucs. Et bah, Montaigne, c'est pareil. Aujourd'hui, on ne parle pas de Montaigne parce qu'il n'y a pas de violence. Si jamais on avait cramé un bâtiment, tout de suite, ça aurait été les étudiants terroristes, machin. Enfin, je ne sais pas, venez, quoi. Et donc, c'est pour ça que je rejoins l'avis de mes camarades sur le problème de notre blocage et de notre mobilisation étudiante, c'est la communication, mais parce que les médias sont orientés. Je trouve que les médias principaux en France sont carrément orientés et politisés, et que jamais un média politisé qui va du coup soutenir un parti politique qui est contre la mobilisation étudiante va aller prendre de façon objective en disant « Regardez, ça se passe bien ». Et forcément, ça oriente la vie publique, et ça oriente tout ça.
Jules.
Du coup, pour revenir sur deux choses qui ont été dites, la première par rapport à ce que... voilà, la réaction du gouvernement par rapport au blocage de l'université. On voit quand même que le gouvernement, de base, en a un peu rien à faire, de tout. Voilà. L'opinion publique, pour eux, c'est minoritaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des millions de gens dans la rue, il n'y aura pas de changement, en fait. Du coup, on peut quand même se poser la question, donc, qui était la question initiale, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ? Bien que je suis d'accord, en fait, l'argument du « ça fait gagner du temps, ça permet d'avoir du temps pour le faire », je suis totalement d'accord, en fait. Oui, c'est
efficace. C'est efficace, je suis d'accord.
C'est très efficace. Et du coup, en fait, on peut peut-être se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres actions qu'il y aurait à faire, plutôt au niveau des centres de pouvoir, je ne sais pas, genre la mairie, pas les cramer une porte, bien sûr. mais je ne sais pas, ne serait-ce que qu'aller bloquer l'entrée ou un truc comme ça. Voilà, ça, c'est peut-être des choses. Et alors,
mini précision, il y a eu un vote à l'AG d'aller soutenir les mouvements qui se passaient devant les bureaux des députés du parti de macroniste de Gironde, tout ça. Donc effectivement, je te rejoins sur, il faudrait encourager ça et que ce soit un point de départ.
Ouais, mais non, mais voilà. Mais du coup, c'est en ça que pour moi la fac peut être utile, parce que en fait, on ne parlera pas de nous. Voilà, on parlera pas des petits débats qui se passent dans l'AG et tout. Faut pas rêver. La seule et du coup la deuxième partie, enfin le deuxième point que je souhaitais aborder. C'est peut-être que sur les médias, en fait, les médias que nous, on peut contrôler, c'est les médias sociaux. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on fasse du bruit. Parce qu'en fait, les médias dits type classiques, bon, c'est très bien à qui ils appartiennent en France. Il n'y a que quelques personnes, voilà, du coup, et qui sont plutôt proches du pouvoir. Donc, ça ne sert à rien, en fait, d'espérer de l'aide de la part de ces gens-là. Du coup, ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas...
L'Instagram, montagne mobilisée.
Oui, non mais... bien sûr, mais justement, je pense qu'il y a d'autres médias sociaux, je ne sais pas, Hugo Décrypte, voilà, qui a énormément d'impact sur les jeunes, voilà. Peut-être qu'il sera pas, il aura une ligne éditoriale qui ne paiera pas, mais en attendant...
Je suis pas content d'aimer.
Oui.
Mais de toute façon, plus on va avoir de voix importantes et nombreuses... mieux ce sera. Donc, la chaîne YouTube est un bon exemple. Il faut qu'il y en ait plein. Il faut qu'il y en ait plein pour qu'il y ait des avis, qu'il y ait des avis subjectifs et que ce soit un ensemble.
D'autres réactions ?
Oui, je voulais juste rajouter par rapport au fait que, évidemment, le blocage n'est pas une fin en soi et qu'au niveau des autres actions, je pense que le plus important, c'est que les campus mobilisés, les étudiants mobilisés doivent être plus en soutien au monde du travail plutôt parce que. S'il y a bien des gens qui peuvent bloquer le pays, bloquer l'économie, c'est bien eux. Enfin, nous, on peut bloquer nos connaissances, enfin, on peut bloquer l'université, les lieux d'études et tout ça. Mais je pense que ce qu'ils ont vraiment besoin ce que les travailleurs ont vraiment besoin, c'est d'une jeunesse radicale et vraiment très engagée qui est derrière eux pour les soutenir. Et c'est pour ça qu'il y a eu notamment la création du comité d'action pour la grève générale qui a été créé à l'initiative de plusieurs AG à Bordeaux, qui regroupe plusieurs étudiants. Pour justement penser des actions avec les travailleurs, tout ça. Il y avait notamment une réunion hier avec notamment des travailleurs de l'énergie, de la santé, des laboratoires et tout ça. Et je pense que le plus important, c'est aussi de mener des actions communes, de faire créer un lien avec les travailleurs, enfin entre les étudiants, entre la jeunesse et les travailleurs, parce que c'est que tous ensemble qu'on pourra réussir à arracher la victoire, en fait.
Nathalie, et ensuite on passera à une autre question.
Alors oui, alors moi deux choses, pour revenir à ce que tu as dit Rémi, alors non plus que les médias sont politisés, alors ça reste un débat sur la neutralité journalistique, pour moi, n'est pas un objet en soi. Plus que ça, c'est la question de la concentration des médias. C'est-à-dire qu'on a à peu près, quoi, grosso modo, les 20 premières fortunes de France qui possèdent, quoi, en gros, 90% des médias en France.
On a la plus grosse fortune mondiale. Bernard
on
Arnaud,
en a Bernard Henry.
Bernard Arnault.
Bernard Arnault.
Fierté nationale, ce monsieur.
LVMH. Et deuxième chose, par rapport à ce que tu as dit, Marco, tout à l'heure, sur le fait que, oui, quand tu rebondissais sur le fait de dire qu'on âgé, ça peut être houleux, j'ai envie de renchérir là-dessus en disant que la démocratie, c'est l'art du compromis. Et d'autant plus, c'est bien que ça soit houleux, parce que justement, ça montre qu'il y a des opinions qui sont différentes. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en discuter. C'est pour ça que je renchérirai là-dessus. Venez aux assemblées générales, apportez vos opinions, n'ayez pas peur, même si vous pensez que, voilà, vous allez vous faire casser parce que vous ne pensez pas comme tout le monde, mais ce n'est pas l'intérêt d'avoir une assemblée générale où tout le monde passe par là, les gars. Hein. Il faut justement qu'il y ait une pluralité d'opinions, il faut que vous puissiez dire, bah, écoutez, moi j'aimerais rétablir les contrôles ou les cours, ou genre, je suis pour ou je suis contre le blocus, et défendez vos opinions, tout simplement.
C'est bien vrai.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, venez le défendre.
Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la représentation dans les assemblées générales ? Parce qu'au maximum, il y a eu entre 800 et 1000 personnes qui ont pu voter. Mais il faut quand même rappeler qu'à Bordeaux-Montaigne, il y a 17 000 étudiants. Est-ce que c'est la faute des personnes qui ne viennent pas voter, tout simplement ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un manque quand même de mobilisation pour ramener encore davantage de personnes, communiquer davantage pour bien expliquer que, effectivement, ça peut être un atout démocratique, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est une minorité qui vote pour la majorité.
Pour le coup, je pense qu'il n'y a aucune faute et aucune culpabilité. Je te laisse la parole juste après, Adèle, mais c'est là où il va falloir faire du bruit. C'est parce que, justement, on prend des décisions en Assemblée Générale. Plus il y a de monde, mieux c'est. Et c'est notre rôle de diffuser les informations de l'Assemblée Générale, d'appeler à ce que tout le monde y aille. Parce que justement, là, le souci, c'est que le vrai contre-argument qu'on peut mettre aux assemblées générales actuelles de cette mobilisation-là, c'est qu'elles ne sont pas toujours représentatives de la majorité. Et qu'il faudrait... Là, c'est plutôt un encouragement aux gens à venir, parce que plus ça va faire de bruit, plus il y aura de monde, plus il y aura d'avis représentés, et plus il y aura de compromis, comme tu le disais tout à l'heure, la démocratie sera respectée. Et je pense que c'est vraiment ça la mission de la suite de la mobilisation et de la suite du blocage à l'université de Bordeaux-Montaigne, et des autres quand même, c'est d'essayer d'amener le plus de gens possible à donner leurs avis.
Adèle, et ensuite Marco.
Non, mais il a dit tout ce que je voulais dire. Enfin...
Donc, tu complètes pas.
Non.
Check ça.
Ouais. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et même peut-être pour rajouter, enfin, dans tous les cas, il n'y aura jamais tous les étudiants de Montaigne, enfin, il n'y aura jamais les 17 000 étudiants de Montaigne en âgé. Et justement, plus on est nombreux, plus ça sera représentatif. Et même si je trouve que bon, bah, ça ne sera jamais 100% représentatif, c'est impossible parce qu'il n'y aura jamais tout le monde. Et que, enfin, même pour donner des exemples historiques, encore une fois, il n'y a jamais, enfin, dans tout ce qui est événements politiques, période de mobilisation, même pour aller plus loin, révolution, guerre et tout ça, il n'y a jamais l'intégralité de la population qui est impliquée dans un mouvement ou dans je ne sais quoi. Par exemple, quand dans les livres d'histoire, on te dit que d'un côté, il y a les collabos et d'un côté, il y a les résistants, c'est faux. Il y a 80% de personnes qui font juste leur life normal et qui n'ont jamais eu un impact sur des événements dans l'histoire, et même encore aujourd'hui, il n'y aura jamais les 60 millions de Français dans la rue, et du coup jamais les 17 000 étudiants de Montaigne aux âgés. Mais je pense que justement, plus on est nombreux, plus ça sera représentatif, et je pense que c'est bien que... Moi, je pense que ça peut avoir, même s'il n'y a pas tout le monde, même s'il y a une minorité, je pense que ça peut quand même être assez représentatif, que ça, qu'il y ait genre, par exemple, 100 élèves d'histoire, 100 élèves de philo, 100 élèves de machin, qui ont tous des avis différents. Je pense que ça peut être quand même assez représentatif, malgré le fait qu'il y ait moins de gens, même si évidemment, voilà, s'il y a de gens, mieux c'est quoi.
Bah, y a déjà qu'à voir combien de personnes ont élu notre président actuel, parce que le suffrage universel, pas très bien universel quand même, cette histoire. Mais ça, c'est toujours aussi le découragement, cette espèce de pénibilité que représente la politique aujourd'hui aux yeux de plein de monde, et pas que les jeunes, je précise, parce qu'il y a toujours cette histoire ça qui, je pense, ne finira jamais, de l'ancienne génération qui critique la nouvelle. Mais je pense que l'absentéisme, la dépolitisation, le ras-le-bol général, il n'existe pas que chez les jeunes. C'est juste qu'on arrive à être majeur dans une période où c'est pas forcément le plus fun politiquement et dans de nombreuses tensions, et que du coup on est un peu les boucs émissaires, les étudiants et les jeunes majeurs là-dessus. Mais je pense que c'est très important de vraiment essayer de communiquer le plus possible, de faire des discussions et des débats comme ça, comme aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment faire le plus de bruit possible pour qu'on incite tout le monde à venir voter et à venir se représenter.
Adèle.
Ouais, c'est surtout, moi je pense qu'il y a tellement de combats qu'on sait plus trop où se battre. Ouais. Et comme, pour moi, la politique, c'est un peu un truc de tous les jours, un truc quotidien, c'est un vote quotidien un peu quand même. Il y en a qui se mouvent, comment dire, qui vont pas en nager, mais par contre font des maraudes ou vont en manif, et dans ce cas, ils se mobilisent. Et je sais pas, il y a tellement de façons différentes de se mobiliser en fait. Ouais, on peut pas dire que c'est parce qu'on va pas en nager qu'on se mobilise pas, ou que c'est parce qu'on va pas en manif. Quelqu'un qui est bon dans la vie de tous les jours, il s'engage déjà, quoi. Donc, voilà.
Nathalie.
Alors ouais, deux choses. Alors par rapport à la question de la minorité qui est présente à l'Assemblée générale, c'est une minorité qui n'a fait que croire. En fait, si on regarde depuis il y a deux semaines où il y avait à peu près 150 personnes en amphi, et qu'en fait graduellement on a ça s'est stabilisé dans le temps, c'est-à-dire qu'au niveau des chiffres on était autour de 300-400 personnes, et là dernière Assemblée générale 800 personnes. Vraiment on a une croissance en fait du nombre de personnes qui participent et qui s'impliquent dans les Assemblées générales, qui amènent leurs opinions, et ça je trouve ça très bien. Pour en revenir sur ce que tu disais, Marco et Rémi, aussi ce que tu disais, Adèle, et désolé, on va repartir un peu sur la cinquième. je pense que justement, le problème de l'abstentionnisme et du fait que les gens ne participent pas et qui pensent que c'est une corvée de pratiquer en fait leur voix politique, et c'est tout simplement à cause du cadre institutionnel dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie, on la pratique une fois tous les 5 ans. Voilà, concrètement. On élit un président, si on est allé un peu courageux, on va voter pour l'Assemblée, et puis ça s'arrête là. Les élections européennes, on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, dans la grande majorité, n'ont plus confiance dans les institutions politiques, n'ont plus confiance dans le débat politique, ils disent ça sert à rien, alors que si, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises tous les jours. Quand on voit en Assemblée générale, il se passe des choses, il y a un vrai débat, il y a un vrai échange, et pour moi, c'est vraiment remettre... le cœur de l'ouvrage démocratique dans les mains de ceux qui le font.
Marco et ensuite Rémi.
Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je suis d'accord avec toi, notamment sur... Encore une fois. Le truc, c'est que beaucoup de gens se désintéressent de la politique aussi, parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut se dire que même pour n'importe quelle personne qui voteront, ça ne sera jamais eux qui prendront les décisions. Ça ne sera jamais... les gens d'en bas qui prendront les décisions, et ça c'est un problème du coup qui remet en question le problème institutionnel de la 5ème République et même de tous les gouvernements du monde en fait, qui, enfin, même si ils ont tous des fonctionnements différents, qu'il y en ait qui sont plus autoritaires, moins d'autres, ça reste quand même il y a toujours une personne qui représente la nation, que ce soit un président, un secrétaire général ou un je sais pas quoi, ça dépend des pays. Et encore une fois, bon, il y a d'autres exemples différents, comme en Suisse, qui n'y a pas forcément de dirigeants, mais il y a une assemblée, tout ça. Mais ça reste quand même des assemblées qui ne sont pas forcément représentatives et qui sont, dans tous les cas, constituées de la classe dominante, riche, fortunée, tout ça, et qui, malheureusement, n'est du coup pas représentative de la majorité. Et c'est pour ça que, bon... je suis marxiste, donc évidemment je suis pour la redistribution des richesses, partage du temps de travail, tout ça, et évidemment pour le pouvoir aux prolétaires. Et même on vient carrément, je prends l'exemple de Révolution Fernande, je suis militant là-bas, mais on revendique un programme de démocratie radicale qui est du coup la fin du poste de président, et que le législatif et l'exécutif soient dans une seule assemblée qui soit élue sur les lieux de travail et sur les lieux d'études. Et ça, c'est des exemples qui ont été faits dans la commune de Paris, par exemple. Et voilà, je voulais faire une conclusion, mais j'ai perdu.
Jules.
Oui, je laisse la parole à Jules.
D'accord, pardon.
Qui a moins parlé.
Excuse-moi. Du coup, alors pour ma part, je voulais simplement revenir sur le fait que... Enfin, je pense que on est dans une démocratie représentative, déjà. Donc c'est le gros problème que tu as soulevé, mais la majorité des gens ne se ressentent pas représentés, mais simplement parce qu'ils, déjà de base, au premier tour, la majorité, enfin j'ai discuté avec pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient voté un peu par défaut.
Bien sûr.
Et ils ne votent pas pour les idées. En fait, la majorité des gens ne lisent plus les programmes, les idées, ne se renseignent pas sur les personnes qui se présentent. Et du coup, on a un gros problème de « Ah, j'ai voté pour lui parce que je pense qu'il peut passer ». Mais si tout le monde pense comme ça, bah, en fait, voilà, on n'a plus de... Et le pire, ça a été vraiment pour l'Assemblée, où les gens ont dit « Ah non, mais j'ai voté pour les macronistes, parce qu'il faut une majorité pour le président. Parce que sinon, c'est le bordel. Bah, » Non, votez pour vos idées, votez pour ce qui vous intéresse, parce qu'en fait, sinon, bah, juste tout le concept de notre démocratie ne fonctionne pas. Quoi.
Mais... Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, et je vais rajouter un truc là-dessus. Comme tout le monde a commencé comme ça, à chaque fois qu'on parle, on dit ça. Mais... On est quand même dans un système qui est basé sur la communication, sur les médias, sur la pub. Les hommes et femmes politiques sont des acteurs. On vote plus pour les idées parce qu'on voit plus les idées, on voit juste les gens. Ce qui a fait le plus de bruit pendant cette campagne présidentielle, ça a été le Mélenchon-Zemmour face à face, octogone, alors que personne n'a parlé de leurs idées. Et c'est bien ça le souci, c'est qu'on va voter pour des personnages, on va voter pour des acteurs et non plus pour des partis politiques. Et je trouve que Nathalie parlait de la polarisation. Je parle de la majorité, notamment jeune, on se retrouve dans aucun parti politique. Notamment parce qu'il n'y a pas d'enseignement de la politique à l'école, qu'il n'y a pas d'enseignement historique là-dessus, crédible et objectif. Et je pense qu'on arrive à un système stérile d'un point de vue démocratique parce que on vote pour des pantins. Et comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de pouvoir d'opposition. Le pouvoir de l'Assemblée se fait battre tout le temps. Il n'y a qu'à voir les 49-3 depuis le début de l'année. On ne représente pas l'opposition.
Nathel.
Alors, oui, moi je vais rajouter ma graine à l'édifice en tant qu'ancien matheux. De théorie des jeux, punissez le jeu, pas les joueurs. Pour moi, en fait, il y a ce qu'on appelle les incentives pour des acteurs politiques à agir de la manière dont ils agissent pour se faire élire et pour obtenir ce qu'ils veulent, parce qu'il y a une institution derrière qui les soutient, et notamment un suffrage. C'est-à-dire que c'est un débat qui est pour le coup pas présent, je vais pas rentrer dessus parce que bon, là, sinon ça prendrait une éternité, pardon. Mais la question de comment on élit, quel scrutin on utilise, ça force aussi beaucoup la représentation qu'on a politique. Et peu de gens critiquent aujourd'hui le suffrage uninominal à deux tours. Personnellement, je suis plus pour un scrutin de Condorcet ou jugement majoritaire. Deuxième chose, on parlait de régime parlementaire et de régime autoritaire. Il faut savoir que la France est une exception à l'échelle européenne. On ne correspond pas aux standards démocratiques européens. C'est-à-dire que tous les régimes autour de nous sont des régimes parlementaires fonctionnels, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. La France a un régime hyper-présidentiel, ce qu'on appelle les régimes semi-présidentiels. Dans le cadre des régimes semi-présidentiels, vous avez quoi ? Vous avez la France, la Russie, la Syrie, l'Algérie. Voilà.
Alors, oui, Rémi, ensuite, une dernière question.
Je suis pas trop pour cette comparaison systématique avec les pays européens qu'on a depuis quelques années. À chaque fois qu'il y avait une réforme, notamment pour les hôpitaux, etc., il y avait toujours cette comparaison à essayer d'atteindre les idéaux. Tout le monde essaie d'atteindre l'idéal du voisin. Je pense que c'est pas grave qu'on soit différent des autres pays européens. Par contre, ce qui est grave, c'est qu'on soit pas représenté. Je pense que la comparaison sur tous les sujets fonctionne moyennement. Parce qu'on n'a pas les mêmes populations, qu'on n'a pas la même histoire, qu'on n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes territoires. Et donc cette comparaison systématique qu'on a, sans critiquer ton argument, hein, mais c'est parce que dans les médias, souvent, la grande pub, c'est que dès qu'il y a une espèce de décision en rapport avec l'économie, l'écologie, les retraites, les hôpitaux...
Quand ça les arrange.
Oui, quand ça les arrange, c'est toujours « mais regardez ce qui se passe en Allemagne ». Oui, mais ils ont des défauts aussi. Et on a des histoires différentes et il faut éviter cette comparaison systématique, je pense.
Alors, on a beaucoup parlé du blocage, de la mobilisation, des manifestations. On n'a pas trop parlé de la réforme des retraites. Quel est votre avis sur cette réforme ? Pourquoi c'est important de se mobiliser contre ? Et quelles sont les autres luttes qui ont rejoint ce combat à Bordeaux-Montaigne, en l'occurrence ?
Alors, moi, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est qu'on se bat contre la retraite à 64 ans encore et encore. Mais je trouve que le vrai problème, c'est les 43 années de cotisation. Et on n'en parle pas assez. On est là, non, 64 ans, 62... Ouais. Non, 64 ans, ça va pas. Ça va pas niveau santé, ça va pas du tout. Mais n'oublions pas que la base du problème, c'est que 43 ans de cotisation, les jeunes, ils rentrent dans le milieu du travail entre 27 et 30 ans, c'est ça ? J'ai plus 27 et 30 ans, donc ça veut dire que la retraite, c'est pas 75.
Oui, l'entrée dans le milieu professionnel est de plus en plus tardive.
Ouais, et du coup, c'est même pas à 64, quoi, c'est à 68. Et le vrai problème, il est là. Et il faudrait qu'on parle un peu plus de ça.
Je pense surtout que, en fait, la réforme des retraites, elle est évidemment absurde et je m'y oppose à 200%. Mais elle traduit quand même un problème dans le monde du travail qui est réel. Leurs arguments de le krach boursier de 2027, ça représente quand même une vraie inquiétude de la part du monde du travail. Mais on tape pas sur les bons, quoi. C'est-à-dire que mettre ce problème-là sur le dos des ouvriers, c'est absurde, c'est inutile. Mais par contre, il y a une vraie nécessité de renouveler le monde du travail, parce que justement, on demande toujours plus aux gens. Il y a des reculés sociaux. Tout ce qu'on a gagné depuis les années 80, on est en train de le redémonter depuis 10 ans. Et je pense qu'il y a tout un système du monde du travail qui est à revoir. On se plaint toujours qu'il n'y a plus de médecins, qu'il n'y a plus d'enseignants, qu'il n'y a plus d'infirmiers. Mais il n'y a qu'à voir les conditions de travail et les études. Moi, je fais ma licence de culture humaniste et scientifique parce que j'ai envie de devenir professeur des écoles. Il y a 2 ans, il fallait un bac plus 4. Maintenant, il faut un bac plus 5. Et il y a encore avant, c'était une licence et une formation avec le concours. Et ensuite, on se dit, il n'y a pas assez d'enseignants. Sauf qu'on ferme les classes, on rallonge les études, et ensuite il faut que les enseignants travaillent jusqu'à 70 ans dans des métiers où déjà au bout de 30 ans, le dos il commence à taper. Ma sœur est éducatrice de jeunes enfants, ça fait quelques années qu'elle travaille, elle sait très bien qu'elle ne pourra pas faire ce métier jusqu'à la fin de sa vie, parce que physiquement c'est pas possible. Donc je pense que le vrai souci c'est les conditions de travail, et c'est le système du travail qui est en train d'être dans le négatif, et que c'est pas sur les futurs retraités qu'il faut taper, c'est pas là où il faut récupérer l'argent. Mais cette réforme des retraites, elle témoigne d'une nécessité d'un changement, en tout cas.
Marco, ensuite Nathalie, et puis il faudra conclure, il nous reste plus beaucoup de temps.
D'accord. Non, juste, je suis d'accord avec ce qui a été dit, et du coup, même pour ajouter, je pense que la réforme des retraites, je ne vais pas revenir sur les différents éléments, je pense que tout le monde est déjà assez un peu au courant sur ce que c'est, mais c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase de tous les problèmes qu'on enchaîne depuis plusieurs années, depuis même la pandémie, la précarité, l'inflation, la guerre en Ukraine, l'écologie, tout. Il y a vraiment tout est en train d'être... Enfin, il y a vraiment une vraie convergence des luttes où tout est en train d'être remis en question, et notamment, je pense aussi, le fait que par rapport où justement on s'attaque aux futurs retraités et même au monde du travail et tout ça, où je pense qu'on voit aussi une certaine, depuis la crise qu'a le système capitaliste depuis 2008, une certaine radicalisation du côté des travailleurs, des jeunes et tout ça, mais aussi du côté de l'élite dominante qui est de plus en plus radicale à l'échelle de la planète, hein, et qui n'hésite pas à faire passer les réformes qui commencent à s'attaquer à nos acquis qu'on avait pris depuis plusieurs années, et qui commencent à s'attaquer à ce genre d'acquis parce qu'en fait, ils voient que leur profit commence à être menacé et qu'ils ne veulent pas évidemment sortir l'argent de leur poche pour régler ce genre de soucis. Notamment, bon, on pourrait parler des 400 milliards d'euros donnés à l'armée par le gouvernement, alors que bon, le déficit des retraites, ils disent que c'est 18 milliards, c'est un peu bon, se foutre de la gueule du monde. Et du coup, si je pense que ça témoigne du fait que le système capitaliste est en crise, et que jusqu'à que les bourgeois soient obligés d'attaquer les acquis qu'on a obtenus, et que sont quand même assez démonstrateurs du fait qu'ils commencent à avoir un souci dans ce système, bon, qui est un souci depuis longtemps, mais qui commence à avoir des traits beaucoup plus visibles.
On va devoir conclure ce débat pour aujourd'hui. Peut-être c'est important de le mentionner, c'est quand la prochaine AG, comment venir y participer, et comment retrouver les informations.
A priori, il y a quand même des AG un peu tous les matins oui. à 9h30 à bord de Montaigne. On a des AG Interfac qui se déploient un peu partout. Ça, faut se tenir informé. Il y a des comptes Instagram, il y a les informations qui circulent aussi. Dans le détail de tête comme ça, Marco a quelque chose ?
Oui, déjà ce soir, il y a eu la coordination nationale étudiante qui a appelé à un rassemblement à 19h30.
Par exemple.
À Victoire, par exemple, déjà pour aujourd'hui. Et même plus précisément pour les prochaines dates et tout ça, bon, il y a la prochaine manifestation jeudi, où il me semble qu'il y a une AG Interfac qui est prévue le matin avant la manifestation. Et même au niveau plus large, je sais que demain, la CGT Énergie est à l'initiative d'un village des luttes sur place des Quinconces, où il y aura plusieurs stands de différents secteurs et même des plusieurs étudiants et tout ça, plusieurs universités en lutte et tout ça.
En tout cas, pour le moment, la mobilisation n'est pas terminée, donc affaire à suivre. Le blocage sera peut-être reconduit la semaine suivante. Il faudra continuer à se tenir au courant. Et puis, on arrive au terme de ce débat. En tout cas, un grand merci à vous toutes et merci. Tous. Merci à Rémi,
merci
Marco,
à
Adèle, merci, Jules et Nathel. On vous souhaite une très bonne continuation.
Campus Bordeaux.
Campus Bordeaux.